podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.
MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial, on en parle tout le temps.
Ben des fois on parle de cuisine, mais pas longtemps.
Cannes Football Club,
c'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.
Bonjour, bonjour et bienvenue tout le monde au rendez-vous trimestriel qui s'appelle le Couscous Piri-Piri en ce 7 juillet. Comme dirait LL Cool J, don't call the comeback, parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà, Sofiane est de retour pour le moment avec Nilton après une longue absence. Merci encore à mon remplaçant Alec pendant quelques épisodes. Et Julien auparavant, donc voilà, bienvenue tout le monde au CCPP.
Je suis content de parler là.
Idem, parce que les chats sur Facebook, ça, il manque le ton. Et les WhatsApp, mais ça, mais il manque le ton, il manque l'intention,
il manque l'enregistrement.
L'enregistrement, le côté sournois hein, dans la voix, c'est ça qui manque. Donc content d'être là, je vais tout d'abord remercier Spreaker.com pour nous sponsoriser. C'est la plateforme pour enregistrer, distribuer et monétiser votre podcast. C'est du haut niveau, c'est la haute technologie. On l'utilise pour tous les podcasts de la communauté du Cannes Football Club. Donc Spreaker.com, allez-y. Et bien sûr, je suis content de retour pour les re-mentionner, quoique j'en parle souvent d'eux sur les réseaux sociaux. La Force du Malte, notre sponsor principal, les seuls, l'unique microbrasserie de Trois-Rivières. La bière du 12e joueur. Donc gros merci à Guy et toute l'équipe de la Force du Malte de continuer de travailler avec nous cette année. Et pour les prochaines années, pourquoi pas. En attendant, jusqu'à qu'ils se fassent acheter par Coors Light ou Bud ou autre grosse compagnie. Donc voilà.
Si c'est Molson, ils vont venir juste à côté de chez moi. Ils sont en train de se construire.
Ah, ouais, on ira travailler là, on fera les podcasts là-bas, et c'est réglé.
Ouais, et voilà.
Je vais être un riverain du sud. Donc voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Si vous écoutez iTunes, Google Play Store, Google Podcast, toutes les applications de podcast que vous utilisez, cherchez Couscous Piri Piri. Vous allez nous trouver, enregistrez-vous. Sur iTunes, laissez une note, 5 étoiles, si possible, et un commentaire, ça nous aide. Et puis voilà. Et si vous voulez nous supporter aussi financièrement, c'est pas compliqué, vous supportez le CANFC sur la page Patreon du CANFC, patreon.com/CANFootballClub. C'est pas compliqué. Puis, tous les liens vont entrer dans les notes d'émission et sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Moi, c'est Sofiane Benzaza sur Twitter. Lui, c'est Nilton George, J-O-R-G-E, le fils spirituel d'Eder. Et moi, je suis le président du fan club de Safety Rider édition Ville Saint-Laurent. Parlant
de chat Facebook, on a présentement notre Alec national est en France. Oui. Puis on lui a lancé un défi quand il était à Paris. Il n'a pas relevé. On voulait qu'il se promène avec un chandail d'Adair.
D'Adair, ouais. Ça aurait été bien ça.
Un Mexicain avec un chandail.
Ouais, mais il y aurait tellement de Portugais français qui auraient été ses amis.
Ils auraient juste une
vedette. Ils auraient le journal de France 2 avec Sugar Sammy. Ça aurait été parfait. Bon, re-bienvenue tout le monde. On est là. Puis on va commencer, on va essayer. Hein. C'est l'épisode, je pense, 15 de cette année. Donc, on a déjà fait beaucoup. Hein. On reste à moitié de l'année. Je pense qu'on va faire facilement une quarantaine d'épisodes cette année. Puis, regarde, l'impact perd. Donc, je reviens. C'est pas compliqué.
La rumeur était donc vraie.
C'est vrai. J'allais pas venir avec l'impact gagne puis qu'il joue bien. Inacceptable. Quoique Oroti.
Oh God. J'étais tout content de dire oh, cool, Sofiane est là, on va arrêter de me parler d'Oroti. Ça fait 5 minutes, boum.
Boum.
Tu te parles de lui.
Trigger. Okay. Woke. Non, mais c'est ça. Donc, quand on a.
C'est tout.
Ouais. Non, mais on a un petit 40 minutes, là, une heure, là, à faire ça, là, mais. Donc, c'est ça. L'Impact vient de perdre 3-2 contre Minnesota United FC, ce week-end au Stade Saputo. La semaine d'avant, le mercredi d'avant, c'était une belle victoire contre Portland 2-1, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Un certain Savitador était le héros. Non, Atlanta 2-1.
Grosse parenthèse. Là, ça fait plusieurs, c'est plus que des semaines. Là. On est rendu à quelques mois, ton
oui,
absence.
Oui.
La dernière fois que tu nous parlais comme ça, la dernière fois on avait la chance de t'entendre, Saphir Taider était supposément nul.
Oui, il était dégueulasse.
Oui.
Le pire DP de l'histoire.
Ever.
Ever. Bernadello, il est un Bernadello incroyable. Taider, nul.
Nelson Rivas, never happened.
J'aimais bien Rivas.
Il a été vraiment spectaculaire dans les 45 minutes qu'il a joué en playoff. Sinon, t'en penses quoi, là, de... J'allais dire l'émergence, mais la transformation...
Regarde,
le Taider depuis, est-ce que nos yeux sont trop attirés vers les statistiques et on voit pas le reste?
Regarde, il avait des... Pardon. Il avait des bonnes stats avant son doublé contre Portland. Anyways. Donc, il avait déjà 6 buts ou 7 buts déjà. Ou 5 buts. Et c'était pas mal pour un milieu relayeur offensif qui faisait tout pour l'impact. Sans Piatti, Urruti, il fait aucune course qui a de l'allure, mais on va en parler. Moi, ce que je dis tout sur Taider, il y a la perception okay, qu'on a sur lui. Le compare pas à Bernier ou à Jim Ali. Et même moi, j'étais bluffé depuis quelques matchs où il joue un rôle ultra offensif, comme il avait fait au début de la saison. Tu sais, contre Orlando, au début, il jouait comme quasiment ailier gauche, il montait beaucoup. Ben là, il est revenu à ce rôle-là. Et je trouve que c'est la bonne, je pense que c'est Shamit Shaum qui l'aide beaucoup pour pouvoir ne pas devoir, nécessairement faire le relais souvent. Quoique, il aime beaucoup descendre, monsieur Taider. Mais ce que je veux dire, c'est que son talent offensif était tout le temps indéniable. Mais avec la sélection avec Bologne, c'était souvent un milieu relayeur, box to box, très conservateur. Mais on savait qu'il y avait un talent offensif. Maintenant, avec l'impact, c'est clair que la Ligue, la MLS lui permet d'aller plus haut. C'est comme un Diego Valeri, un peu. Mm-hmm. Il va à gauche, il va à droite, il va à l'axe, il fait ce qu'il veut. C'est un sort de numéro 10. Depuis 3 matchs, c'est un numéro 10. C'est le numéro 10 que l'impact cherchait, entre guillemets. De temps en temps, ailier gauche, box-to-box, si vous voulez. Donc, il fait tout. Donc, son renouveau, c'est par rapport qu'il n'est plus blessé. Je ne pense pas à la pression de ne plus faire la canne. Je ne pense pas que c'est ça nécessairement un problème. La pression de faire la canne, c'est ça qui a aggravé sa blessure. Donc maintenant qu'il a pu se reposer pendant 3 semaines, c'est parfait. Il a fait son speech avant les vacances.
Bon, il a pris une espèce de responsabilité. Oui. Peut-être qu'elle était déjà présente, inconnue de nous parce qu'on n'est pas dans la chambre. Exactement. Mais clairement, on le voit là, on le voit aussi plus serein sur un terrain. Il y a toujours la même fougue, mais il est moins frustré. Ça fait une grosse différence.
La frustration venait aussi avec ce que l'équipe faisait. Lui aussi, il n'était pas nécessairement, content de ses propres performances. Donc, à la fin, c'est normal qu'il soit frustré. C'est hard. Divayo, là, il gueulait sur tout le monde quand il n'y avait pas la passe millimétrée. C'est normal, c'est le haut niveau. Taider, voilà, et en plus, j'avais déjà tout dit sur Taider. Je ne fais pas, je vous l'avais dit, mais c'est un joueur qui est un peu inconstant quand il essaie de trop faire offensivement. Et le problème, la bonne chose, c'est que Rémy Gade l'a enlevé certaines tâches du milieu de terrain. Il les fait quand même, mais c'est Shamit Shaum, Piet, Kroleki, Azira qui font un peu plus. Donc lui, il se concentre sur vraiment construire le jeu, puis chercher la dernière passe, ou même marquer le but, parce qu'il a clairement un talent offensif. Parce qu'avec la sélection algérienne, il allait souvent vers l'avant. Pourquoi? T'as Slimani, t'as Bagdad Bounjena, t'as Mahrez, t'as Goulam de Naples, t'as Ounas. C'est autre chose. Même lui, il me l'avait dit une fois, ça dépend avec qui tu joues. Il m'avait dit, dépendant avec qui tu joues, j'avais parlé après un match, dépendant avec qui tu joues, ton rôle est différent. Donc, c'est pas un Valeri dès ses débuts dans la Ligue, c'est clairement pas un Lodero, c'est pas un Piatti, mais c'est un joueur que quand il est en bonne forme, puis il est en confiance, c'est un DP. Et pour moi, le fait qu'il soit pas dans le All-Star, dans l'équipe All-Star, c'est un peu décevant, juste au niveau marketing, ça aurait été bien. Le temps de performance, il le mérite clairement, mais ça c'est juste choix de la Ligue, choix des fans, etc. Mais ça fait Taider. Et vraiment, il prouve vraiment sa valeur, la valeur que même moi. Je vais aussi nommer Riyad Topographie Idéale, Riyad sur Twitter, Riyad Khalifi, Riyad The Nine, Karim Rezalit, Karim Djebri de Radio Maghreb. On avait tous dit ce que vous, ça fait Taider. On sait c'est quoi son style. Dans un monde parfait, il revient en Europe, c'est un Marco Donadel en meilleure forme. En plus box to box. Il aime faire le relais, il aime monter. Puis voilà, c'est un joueur simple. Mais en MLS, il se transformait dans un autre joueur parce que Gade avait besoin de lui comme un atout offensif. Et ça marche. Donc voilà, j'espère que les gens ont compris un peu mon point sur Taider. C'est pas du chauvinisme pur et dur, c'est vraiment, j'essaie de l'analyser de la façon la plus objective possible. Et à la fin, moi je trouve que c'est un joueur qui apporte une grosse valeur ajoutée au milieu de terrain. Puis maintenant, il est plus dans le top 3 devant que le middle 3. Et ça a de l'impact. Et c'est un impact, ça compense le fait qu'Urruti ne marque pas trop, mais en même temps, il est pas trop aidé par l'équipe, mais aussi, Urruti a ses défauts aussi. Et puis, je pense que Bon, Piatti, je pense que l'aventure est quasiment finie avec Piatti, là, mais quant à Brownie, quant à Chaume, quant à Piet, qui... moi je trouve que c'est bien pour Tider. Et ça aide Tider pour être plus concentré sur quelques tâches au lieu de tout faire, quelque chose que clairement il a essayé de faire pendant toute la saison en 2019. Quand ça marche, ça marche. Quand ça casse, il est nul. C'est la pire chose à vœux. Il trop les paye trop cher. Mais bon.
Moi, ce que je comprends pas, c'est que les arguments qu'on a utilisés pour défendre Urruti pendant des mois sans qu'il marque un seul but,
ouais,
sauf en pénalité une fois, tout ce qu'on a utilisé pour justifier sa présence puis dire oui, malgré tout, sa présence est utile, blablabla. Bla, bla. Mais toutes ces... tous ces faits-là qui ont avancé existaient aussi chez Saphir Tider. Et en plus, il y avait les statistiques qui venaient. Et pourtant, on s'amusait à critiquer, à trouver des bébêtes à Saphir parce que oui, il n'est pas parfait. On s'entend, c'est pas le joueur parfait. Il tente des choses qu'il n'est pas capable de faire parce qu'on lui donne un rôle trop gros.
Tout à fait.
Je comprenais pas comment d'un côté, un gars pouvait être défendu bec et ongles.
Exactement.
Et d'un autre côté, on s'amusait à... Sérieusement, si on a le choix de retirer un des deux joueurs avec moins de conséquences sur le terrain, c'est Urruti. Si on enlève un Urruti, ça fait beaucoup moins mal que d'enlever un Saphir Tider. C'est une évidence. Je ne comprends toujours pas. Et je vois, match après match, des gens me sortir des arguments là, mais magiques sur Maxi Urruti. Je veux pas. Hier là, quand Jackson a marqué rapidement, tout ce qu'on a dit pendant des semaines et des mois sur Jackson venait de tomber à l'eau. Puis malgré tout, les gens vont trouver quelque chose. C'est hallucinant. Je veux dire,
il y a même un tweet que quelqu'un a dit avec Urruti, on aurait gagné. Ok, j'ai pas compris celle-là.
Mute. Non, mais je veux dire, c'est correct d'avancer des choses, c'est correct de se tromper. Toi et moi, on se trompe, mais il faut être humble pour dire, OK, j'étais dans les patates et voici ce que je voyais. Voici ce que je voyais à l'époque, voici c'était quoi mon analyse. Aujourd'hui, elle est complètement fausse.
Oui, t'as le droit d'avoir tort et t'as le droit d'avoir raison.
S'ostiner sur des trucs tellement évidents, ça sert pas la cause.
Mais en plus, c'est que si on fait ça de façon objective, et si j'essaie de réanalyser ce que tu dis sur Urruti, puis je t'ai rejoint peut-être après trois semaines de match en début de saison, c'est que t'as rien contre Urruti. Urruti, tu comprends la valeur d'Urruti au sein du collectif de l'Impact. Tu comprends ce qu'il fait. Tu comprends les courses. Tu comprends.
Ça aussi, c'est un gros mythe. Faudrait ressortir les. On a été hypnotisé, on a été, c'est un espèce de flash qu'on a eu pendant deux matchs. On l'a vu courir parce qu'avant c'était Mancuso qui était incapable de courir. Avant ça, c'était un Drogba qui ne court pas, jamais de sa vie il a couru. Et on était pris par des comparables tellement trop forts que quand on a vu Urruti, on s'est dit, oh merde, il court, il est mince, il est grand, il a l'air à voler sur un terrain. Et là, ça a été quelque chose qui a été écrit par un crayon là, qui s'efface plus. Là. Maintenant, à chaque fois qu'on écrit Urruti, il y a un mot à côté qui s'ajoute, c'est court. Mais c'est plus vrai. Arrêtez de dire qu'il court tout le temps. Je veux dire, oui, il court.
Mais il court
pas plus qu'un autre. Arrêtez de le dire.
Non, c'est vrai. Mais regarde, mais dans ce que Garde voulait faire, en termes de pressing, Urruti, il est indispensable. On est d'accord? Jusqu'à avant la pause.
Il était indispensable dans la mesure où les buts arrivaient d'ailleurs.
En plus, et surtout, mais même, au lieu des buts, imagine qu'il gagne 1-0 sur corner, un but de Diallo et de Camacho à chaque fois. Okay? Dans le pressing que Rémi Garde voulait faire, Urruti, c'était la pièce importante. Ça, c'est clair. On l'a vu dès le début, c'était évident. Piatti le faisait aussi, Tider, tout le monde faisait le pressing, mais Urruti, c'était le number one. Et ça, je le comprenais. C'est pourquoi j'ai donné du loose pour, je veux dire, on va attendre pour les matchs à la maison. Maintenant, en termes d'intelligence d'être un attaquant de pointe, il est mal desservi par l'équipe. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, à chaque fois que je vois Jackson Hamel rentrer, il fait des courses, il fait des choses que Urruti, je pense pas qu'il est capable de faire. Ou n'est plus capable de faire.
Il y a une vision offensive différente.
Exactement. Ils font deux métiers différents. Et c'est pourquoi quand les deux ont joué ensemble, ça marchait bien.
Oui. Et j'ai pas dit une moins bonne vision.
C'est différent.
Ils ont une vision offensive différente. La course qui mène au premier but, Urruti ne la fait pas. Il n'y a pas ce réflexe-là.
Non, c'est pas son style. Et le dribble et le risque dans la surface pour mettre un tipon sur le défenseur Minnesota et le finishing in extremis, Rudy pourrait le faire. Peut-être il sait plus le faire, je ne sais pas. Mais tout ce que c'est, à chaque fois que je vois Jackson Hamel le faire, en face de Mancuso, en face de Rudy, je dis ouais, ok, Jackson Hamel, ça se voit que c'est un buteur. C'est peut-être un joueur limité par rapport à d'autres attaquants, mais il fait le travail. Puis je pose la question bête, ok. En termes de qualité d'attaquant de pointe, dans le sens classique du terme, on oublie les deux extrêmes, Drogba et l'autre extrême, le Tchèque. Et le Tchèque, Jan Koller. C'est le géant là, des années 2000. C'est deux extrêmes différentes. Qui est meilleur attaquant, Mancuso ou Rudy? C'est Mancuso.
Ouais.
Puis Mancuso, j'avais un acharnement envers lui parce que. J'avais l'enchant parce qu'il livrait pas assez, à un moment donné, puis Jackson Hamel était meilleur que lui, sur quelques instances. Mais ça, c'est un autre débat. Mais pour dire, Routy, moi, je l'aime. Honnêtement, ça me dérange pas de l'avoir, là. Ça me dérange pas, mais en même temps, si Jackson Hamel est sur le banc, puis il est pas blessé, puis Routy joue à chaque fois, et que tu gagnes quand même, ça se justifie. Mais quand tu perds, je pense que ça aurait été plus délicat. Il garde, se justifie, puis il a raison, parce qu'il gagne. Il gagne plus qu'il perd en ce moment. Donc, tant mieux. Mais pour Routy, c'est plus par rapport à ce que les gens nous disent. Routy, on sait qu'il est pas dégueulasse, là. C'est pas un gros caca. Juste que, ça, c'est des références à des couches. Donc, des gros caca.
Continue.
Effet surprise. on dit pas ça. On dit par rapport à nos attentes. Un attaquant pointe. Qu'on est passé de Justin Brown à Divayo, ensuite de je sais pas qui avant lui, de Paponi à Drogba. Ben, quand on est en Routy, on dit oui, au Routy c'est intéressant, mais un attaquant pointe dans n'importe quelle ligue où ton club n'est pas totalement dégueulasse, ton attaquant numéro 1 doit viser, je sais pas, 6-7 buts minimum. Et encore, je suis très laxif. Et ça, le problème, c'est que ni dans la performance, ni dans le style, ni dans les statistiques, ça arrive à Gorotti, d'où la frustration. Et puis, il faut voir le contexte, parce que là, tu regardes deux choses d'une temps. Tu regardes le joueur, tu regardes le joueur dans l'équipe. Il y a plus de points positifs avec Gorotti dans l'équipe que le joueur quand tu mets un loop sur lui et tu le vois jouer. Parce qu'il est très, très décevant par rapport à un attaquant. Si t'es ailé droit, j'aurais été content. C'est tout.
Voilà. Hey, pendant qu'on parle, on a reçu une tonne de questions. C'est quand même fou, je pensais pas qu'on allait avoir des questions en si peu de temps, mais on peut, si tu veux, tout de suite aller vers les questions.
Ok, oui, vas-y.
Une des premières vient de Étienne Bélanger, et il nous pose la question. C'est chiant. Qui doit partir entre Cabrera et Camacho, c'est qui est le pire entre les deux?
Moi, je trouve que Camacho est très bon depuis quelques bouts, depuis un bout, non? Moi, Cabrera me dérange pas tant que ça. C'est juste qu'il est là depuis longtemps, donc à un moment donné, il va partir. Donc,
les deux ont tendance à être un peu trop aspirés par le jeu.
Oui, mais Camacho, il est vraiment bon là. Je vois jouer, il est bon. Je dis ah ok,
Camacho,
il est bon.
Camacho apporte un peu plus. Une prise de. Ça, on peut tout s'améliorer dans des prises de décision avec le temps.
Jusqu'à un certain point.
C'est fou, hein, parce que Cabrera, on n'en voit pas. On voit juste un gars que des fois, il réussit. Des fois, il réussit pas. Mais ultimement, il prend toujours les mêmes décisions.
Mais ça passe en MLS, honnêtement. Tu vois d'autres défenses
en
MLS. Tu dis ça, mais faut que tu ailles voir Vancouver, t'en entends jouer.
Oh, ben oui.
Ouais, ça, c'est LAFC, même avant ça. LAFC, genre. Ouais. LAFC, c'est genre tout le monde va se prendre une raclée, quasiment. Moi, je sais pas, Cabrera, oui. Là, il arrive vers la fin de le loose qu'il a pour dire, OK, c'est la MLS, ça passe, là, ça, dans pas longtemps, ça passe plus. Mais, en termes de budget, est-ce qu'il est si cher que ça?
Non,
en termes de capacité physique, il se baisse beaucoup moins qu'avant, il est mieux géré. On fait quasiment du load management à la Kawhi Leonard, Kawhi. Comment on dit son nom?
Kawhi. C'est pas grave, il est parti là. Il fallait savoir pendant 2 mois.
C'est ça, Kawhi Leonard. Donc, c'est, il est bien géré Cabrera. Hein. Puis honnêtement, t'es pas content de l'avoir quand tu joues une défense à 3 comme ça? T'es content.
Oh, oui, mais c'est le fun de jouer à une défense à 3, mais tout est mathématique. Hein. Si on joue avec 3 défenseurs centraux, il y a moins d'options. Hein.
Ouais, mais la taille d'air.
Sofiane, je suis tellement tanné du jeu offensif de l'Impact de Montréal.
Mais c'était pas mieux hier?
C'est jamais mieux. Ça doit être tellement facile. Faire un plan de match contre l'Impact de Montréal, ça doit être tellement facile que tu peux mettre la moitié de l'équipe des gars qui ont, ça fait 5 matchs et moins qui jouent.
Est-ce que je peux te donner espoir avec Brownie?
Oui, parce que Brownie apporte... Tu sais, on fait juste passer sur les côtés tout le temps, tout le temps. Quand le ballon est au centre, c'est parce qu'on vient de le récupérer et on cherche soit un côté simple ou une profondeur sur un côté. C'est tout le temps la même chose. Une équipe, il n'y a aucun élément de surprise. Et le seul élément de surprise, tu l'as dit, avant, c'était Piette sur le côté. Piatti sur un côté, oui. Piette sur un côté, ça serait spectaculaire. Mais Piatti sur un côté, peu importe le plan, tu sais, du 1 contre 1, il est capable de battre son couvreur puis amener un élément de danger. Et là, présentement, Brownie sur le côté, c'est la même chose. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe au centre, puis il
y a une belle frappe,
De loin, extraordinaire. Mais à part ça, il se passe à rien. On fait toujours la même chose. Là, la profondeur sur un côté, on centre sur qui? On centre pas. Si on envoie un ballon dans la surface, puis on dit dans l'eau, dans les 20 centres, il va en avoir un peut-être qui va tomber sur le chest de Camacho et il va la mettre dedans. Mais c'est pathétique, là. Il n'y a pas de structure offensive. Tu sais, oui, il n'y a pas les éléments qu'il faut, là, mais merde, là, ça fait 3-4 mercato qu'on les trouve pas, les éléments.
Mais Ménilton, je te rejoins jusqu'à un certain point. Même sur Twitter hier, je trouve que c'était un peu trop négatif, parce que il y a une défaite et tout. Mais juste que, même si Minnesota a voulu laisser le ballon à l'Impact, parce qu'ils n'étaient pas assez bons, il manquait des joueurs, et l'Impact, je trouve qu'il était supérieur en termes de jeu, quand l'Impact avait le ballon, j'ai même pas l'impression qu'ils allaient le perdre rapidement. J'ai l'impression qu'ils étaient confiants et calmes et sereins. Maintenant, tout le monde va parler de domination stérile. C'est peut-être possible. Oui, je serais d'accord avec vous jusqu'à un certain point. Mais je trouve quand même qu'il y a une certaine confiance dans le jeu de ces joueurs-là depuis un bout. Juste avant la pause, et la pause a beaucoup aidé. Même quand Atlanta, c'était pas mauvais. Oui, Atlanta, il y avait des absents, mais tout le monde avait des absents. Et je trouve que c'est un peu le prix que l'Impact doit payer avec les absences d'Azira et de Piet et devoir intégrer Chaume assez rapidement. Que Chaume a aussi remonté son niveau. Parce que le joueur qui va porter un surnombre à un autre milieu de terrain, c'est Chaume. C'est Chamine Chaume, c'est lui la clé.
Mais c'est beaucoup plus difficile si on joue à deux.
Oui, mais c'est ça, c'est tout le temps le coup d'opportunité. Vrai, ouais. C'est tout le temps le coup d'opportunité, le choix que tu fais, le choix que tu fais pas. Maintenant, c'est pourquoi on donne beaucoup à Tider et c'est pourquoi le débat de Routy revient. Parce que tu as besoin d'un attaquant qui a du poids dans le jeu de l'Impact. Et honnêtement, Oroti, je trouve beaucoup plus intéressant à côté ou derrière Jackson Hamel qu'à la place de Jackson Hamel. Dans tous les cas, les deux dans un an seront plus là, je pense. On se parle dans un an, aucun des deux sera là, on aura un nouveau attaquant, je pense. Mais il faut juste retrouver la recette contre les Red Bulls. C'était la première fois qu'on avait vu le 3-5-2 ou le 3-4-3. Je trouve que si on peut le refaire... Puis Brownie était quasiment milieu de terrain, Routy était devant.
Exactement. Ou ce qu'on voit rarement en MLS, c'est que les latéraux ont tellement une position libre que quelquefois ils deviennent milieu de terrain aussi. On le voit un peu plus avec l'équipe américaine.
Et tu peux le faire avec un gars. Tu dis à Arrêtala, toi tu dépasses pas les 60 mètres et Sagna, tu fais l'essuie-glace. Puis Chaume ou Kroliki ou Piet vont te couvrir.
Mais Sagna, tu sais, oui, c'est un joueur expérimenté, tout ça, mais il n'a jamais été un crack offensif non plus.
En termes de centre, c'était un running gag. Arsenal, l'équipe de France, en termes de centre, il n'était pas un très bon centreur.
Donc,
pour un joueur qui avait du haut niveau, c'était un running gag, je pense que Rush peut confirmer, et autre fan de l'Arsenal, c'était pas le top en termes de centre. Même pour dans le standard, la EPL, il était en dessous du niveau d'un latéral droit pour centrer. Pour le reste, il est excellent. Moi, je trouve qu'il est vraiment, c'est une des meilleures recrues depuis longtemps de l'Impact, Sagna. Je suis étonné par son output offensif, physique, tactique, défensif, je trouve vraiment, c'est Sagna. Pour moi, c'est une légende. Mais honnêtement, c'est incroyable. On ne réalise pas qu'on a Bakary Sagna.
Une autre question. Christophe Hamel nous demande pourquoi est-ce que Diallo était substitué au lieu de Camacho et Cabrera. En tout cas, Diallo, il se la pose la question.
Hein. J'ouvre Instagram. C'était quoi? C'est Zach Diallo? Z-A-K Diallo?
Est-ce que ça DM. De ce que j'ai vu ce matin, je ne l'avais pas vu live au stade, mais... Il a ignoré un peu la poignée de main de Rémi Garde. Je crois que j'ai lu qu'il est rentré directement au vestiaire.
Moi aussi, surtout, c'était Joey Alfieri de TSN Cincinnati qui avait dit qu'il partait au vestiaire. Mais en voyant son visage quand il sortait, il comprenait pas pourquoi il est sorti. L'amant, est-ce qu'il veut le tenir, il voulait le garder pour York? Est-ce qu'il voulait le garder pour, je sais pas.
Regarde. Un pépin, ouais, mais tu sais, c'est tout le temps. Avoir la doublure Camacho Cabrera fait toujours peur parce que, tu sais, ils ont les mêmes défauts, là. Tu sais, c'est, ultimement, on a peur de ce qui pouvait arriver. Puis mais oui, ça, c'est, le quatrième but est passé proche à cause de Cabrera aussi.
Mais ça a bien tenu quand même. Ça a bien
tenu. Ouais, il y a une belle, occasion, pratiquement un 4 contre 1 parce que Cabrera s'est projeté. Puis que l'attaquant de Minnesota l'a mis juste à côté du poteau de façon cocasse. Mais ça arrive, tu sais, au cours d'une saison, tu sais, des joueurs frustrés après leur coach, là, ça arrive à pelleter, là, aussi, là. On peut comprendre à sa place. Donc, la raison pourquoi il est sorti sur le terrain était compréhensible, mais des fois, les réponses, c'est pas seulement sur le terrain.
Oui, et puis, la réaction de Diallo est plus que normale. Et puis, le contraire m'aurait étonné.
Là, une autre question, Philippe Rancourt, puis c'est un sujet qui est arrivé, que j'ai vu passer beaucoup pendant la soirée. On parle de la foule, quand même, vous l'avez trouvé, une des plus engagées que j'ai eu la chance de voir. Faut dire que marquer un but en 30 secondes, ça aide. Ça donne tout de suite le ton au match. Les gens étaient, tu sais, c'était dynamique. On s'est beaucoup, beaucoup plaint de la qualité du jeu et du spectacle là, dans le stade Saputo. Là, ça fait des mois qu'on s'emmerde. Là, tu veux pas, 4 buts en 45 minutes, ça réveille la foule, que ce soit d'un côté ou de l'autre.
Tout à fait.
Et là, ultimement, le fameux complot MLS qui rentre dans la foule, les gens réagissent sur le coup. Le responsable vidéo de l'Impact de Montréal est très content d'avoir vu la reprise live sur le terrain. Ça provoque, là, c'est sûr, c'est une ambiance parfaite, là, t'sais. C'est l'été, les gens sont en vacances.
Est-ce que t'es fan t'es fan des X-Files?
Oui. Ah, oui, okay. Classique.
Classique. Du coup, bon, le déroulement de l'émission, c'était quoi, 10, 12 saisons, il y avait l'histoire principale, c'est le complot, des syndicates, aliens.
Puis la ligne directrice.
Exactement. Puis il y avait toujours un épisode sur deux ou trois, c'était une histoire.
Un stand-alone.
Voilà, un stand-alone. Un truc marrant, un truc pas marrant, ça dépend. Mais justement, pendant qu'un bout, il y a un petit stand-alone, que c'était bien. Puis après, l'épisode du complot avec Smoking Man, c'était hier, avec le complot, avec la vidéo, avec le... T'as Krychek, le fameux agent qui est là partout, mais qui part au FBI, t'as Skinner, le directeur FBI. C'est, l'histoire principale du complot revient. Donc voilà, en parlant de Smoking Man, c'est qui? C'est Garber. Donc Garber, c'est lui qui est tout le temps là, mais on le voit jamais, qui contrôle le destin de l'Impact à travers des ficelles. Et je trouvais intéressant que Gremminger d'hier, il disait que bon, j'ai l'impression que beaucoup de choses vont à l'encontre de l'Impact depuis cette saison. C'est un statement assez émotionnel. Il est peut-être statistiquement, il y a peut-être raison si on compile le nombre de décisions contre l'Impact, mais je sais pas si c'est vrai à travers la Ligue. Est-ce que l'Impact, c'est l'équipe la plus discriminée? Qui est le club le plus discriminé dans la ligue, j'ai un doute. Mais il faut faire la compilation avant de faire des, avant qu'on puisse dire oui, ce que Gremminger dit a raison. Il a peut-être raison. Mais je trouve que ce incident du VAR, la faute de Bouche ou pas, en amont, s'il n'y avait pas le VAR, le débat aurait été le même. Si l'arbitre avait décidé de donner un pénalty.
Le débat sur la VAR, là, je suis plus capable. C'est comme débattre du sifflet de l'arbitre. Là. Je veux dire, au lieu de focusser sur la décision que l'arbitre prend et d'en débattre, on va débattre de maudit sifflet. S'il n'y avait pas de sifflet, il n'y aurait pas de faute. C'est tellement ridicule. Quand on a une fixation sur un truc comme la VAR, là, c'est tellement malhonnête. Le gars, il utilise un outil. Le problème, c'est pas l'outil. Arrêtez, ça n'a aucun sens.
Non, mais exactement. Puis, regarde, juste, je veux répondre aussi à Philippe, là, par rapport à la foule. C'est juste que moi, j'aurais regardé un match j'aurais regardé le match, là, puis j'avais trouvé un lien qui n'avait pas de commentateur.
J'ai senti le côté illégal. Il part te regarder, justement, c'est l'FBI à l'époque, cogné chez toi.
Ils
vont arriver,
là. La GRC, Trudeau vont tous être là. Et Legault. Et puis, je tombais sur un lien et il n'y avait pas de commentateur. On entendait la foule excellente, de façon incroyable. Donc la foule était vraiment belle de mon iPad, c'était super beau. Et, mais ce que je trouvais c'est marrant, c'est qu'on entendait beaucoup de FU Ref, mais ça a duré pendant 45 minutes. C'était incroyable. Et j'avoue que ce que dit Philippe, c'est vrai, elle est très, la foule est très engagée au stade Saputo. Quand il y a de l'émotion, quand il y a du drame, quand il y a du positif aussi en termes de but, c'est bien.
Mais c'est le sport, c'est ça, là.
Ben oui, c'est l'émotion, c'est l'émotion. Ouais, c'est demande à un des propriétaires des Golden State Warriors, quand il a poussé Kyle Lowry en finale de NBA. C'est l'émotion, man. L'émotion, c'est correct. C'est correct. Mais pour revenir à l'avoir, je peux avoir des questions sur l'avoir. Oui, moi, le débat sur l'avoir, genre, c'est donner-lui un peu de temps. Est-ce qu'on peut donner 10 ans à l'avoir pour voir comment elle peut s'améliorer? Peut-être pas la technologie, mais peut-être les procédures, les procédés, peut-être la prise de décision. Tout ça, ça peut changer. La Coupe du Monde FIFA, là, féminine, la VAR est une catastrophe en termes de va-et-vient. Ça revient à l'interprétation. Et ça revient aussi à l'application de la règle, VAR ou pas VAR. Mais c'est compliqué.
Il y a trop de commentaires sur les règles de ce sport-là sans connaissance des règles.
Ben oui.
C'est fou. On réfléchit tellement. T'sais, moi, hier, là, quand j'ai vu live, c'est incompréhensible, le penalty.
Tout à fait.
Je suis pris dans l'émotion. Je suis comme un joueur. Je suis comme un entraîneur.
T'es sous.
Je suis comme un propriétaire.
T'es sous? T'es tipsy?
Comment?
Est-ce que t'es tipsy? Est-ce que t'es un peu.
Non.
Joyeux?
Focus. Non. Je suis dans le match. J'ai le même état d'esprit, tout ça. Je vois le geste. Je fais c'est incompréhensible. Oui. Oh yes, il va avoir la VAR. La VAR va tout régler ça. Non, mais sérieux, c'est mon état d'esprit. Donc, non, il rentre dans le gardien, c'est sûr. Il va à la VAR, ouais, tout est beau. Non, ça fait, là, approche-toi pas, ça vaut même pas la peine, là, tu perds du temps. Et là, bang, surprise, en peu de secondes, c'est clair et obvious pour lui.
Ouais.
Pénal. Je fais, oh wow, scandale. Incroyable. Le lendemain matin, tu regardes ça. Et là, t'essayes d'être neutre. C'est pas facile d'être neutre parce que c'est Montréal, là. C'est ton club. T'as déjà un billet, t'as déjà un filtre. Mais bon, t'essayes d'être neutre, puis t'inverses. C'est toujours très, très le fun. T'inverses les rôles. Là, présentement, c'est pas Bush, c'est le goaler de Minnesota, c'est pas Finlay, c'est Tider qui avance. OK? Et il y a exactement la même action. Comment je vais réagir si l'arbitre va l'avoir et il dit, finalement, il n'y a pas de pénalité? Il y a émeute, là. Je veux dire, le stade se vide, là.
C'est vrai, c'est une question de perspective,
c'est
puis en plus...
C'est impossible de dire, après cette action-là, claire et évidence totale qu'il n'y a pas de pénal. T'sais, il faut toujours se reposer la question, quand on veut blâmer la VAR, à quoi elle sert? Elle sert à changer une décision prise sur le terrain qui a été erronée de façon claire et évidente.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a eu une erreur claire et évidente sur l'appel fait par l'arbitre? La réponse, là, c'est 100 fois sur 100, non. Il n'y a pas d'erreur claire et évidente. Bon, ça, c'est réglé. Maintenant, on ne parle plus de la VAR. Là, on peut parler
de l'action.
Et de la décision.
Tout à fait.
Là, oui, on peut débattre, c'est du 50-50. Selon moi, après avoir vu la reprise... Je comprends cette décision. Je sais pas si j'aurais pris cette décision-là, mais je pense que oui. Parce que si je suis arbitre dans un match ailleurs, là, je suis dans un pays où je m'en fous totalement, contre deux clubs, qui n'ont aucune préférence, les deux m'insultent de façon égale. Je vois cette action-là, sincèrement, je pense que je call pénal.
Oui, mais en même temps, il y a 5 ans, disons qu'avant que la VAR existe, il y a 10 ans, on aurait eu le même débat, on a dit, mais pourquoi il a appelé? Déjà, cette action, c'est rare qu'elle ait appelé, à mon avis, de mémoire. Mais j'ai pas vu tous les matchs du monde, j'ai pas vu toutes les actions.
Moi, j'ai le réflexe inverse. Moi, je me dis exactement l'inverse de toi, donc ça doit être 50-50.
Exactement, exactement, d'où le débat. Puis, regarde, il y avait le petit communiqué des arbitres qui donne au reporter MLS à signer, puis je pense que c'était Tristan Damour. Vous pouvez voir la photo qui a été prise par Sydney, at Solambe. S-O-L-A-M-B-E-Y, il disait quelle était la raison d'avoir donné pénalité à Bush. Denying an obvious goal scoring opportunity for committing a foul while attempting to play the ball.
Ouais, donc, et à chaque fois, les règles FIFA, c'est très large. Tu sais, tu peux être déçu, tu peux lire ça. Franchement, ça ne va servir à rien de poser la question. Oui, mais il a répondu avec le point de règle.
Non, c'est vrai, et exactement ça. Puis je comprends même la rage de certains médias, de certains fans. C'est correct. C'est un débat.
Mais moi, je fais une différence. Moi, je comprends la rage des fans. Je comprends la rage des joueurs. Je comprends même la rage de Joey.
Oui.
Mais au niveau médiatique, celle-là, je la comprends pas.
C'est une,
rage.
C'est une ligne éditoriale. Chacun fait ce qu'il veut. Milton, c'est chacun. Et surtout, tu vas voir sur, tu vas voir à travers les années, à travers les mois, que ce soit quand tu suis Porto ou le Portugal ou l'Impact, les mêmes gens, les mêmes entités, les mêmes fans, ils auront la même tendance. Ils auront plus ou moins
ce qui leur arrive, c'est de leur faute, parce que si le gars à Porto dit tout le temps la même chose puis il est tout le temps du même côté, il en paye le prix
Et tout ce que je dis pas que ce qui est arrivé hier n'est pas controversé. C'est très controversé, VAR ou pas VAR.
Oui, c'est une décision.
C'est très serré, c'est très difficile. Hein. Tu fais ça en Syrie, tu fais ça en Coupe du Monde. Ouh là 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 là. On en parle pendant 3 jours. Oui, ça arrive.
Partout. Je veux dire, pour avoir vécu, tu sais, Montréal, c'est fantastique parce que à Montréal, tu vis les deux côtés des médailles, souvent dans les tournois internationaux, que ce soit l'Euro, la CAN, la Coupe du Monde. C'est parfait parce que souvent dans un pays, quand il y a un match scandaleux qui arrive, celui qui paye le prix, là, ça brase, mais vous n'avez pas idée dans son pays. Mais en face, là, dans l'autre pays, là, il n'est même pas question de cette action-là.
Non.
On en a eu des tonnes. Là. Je veux dire, la finale de la Coupe du Monde, en France, on parle pratiquement
pas de la main.
Non, aucun débat là-dessus. Non. Partout ailleurs au monde, là. Cette règle-là. Ça a brassé, je veux dire, en Angleterre, ils en ont parlé, pas seulement en Croatie. Tout le monde en parle. En France, il n'y a pratiquement pas. Le lendemain, là, c'est à peine...
C'est une question de perspective. Chacun est affecté à sa façon, et c'est normal. Chacun vit sa vie. Et encore une fois, l'arbitre n'appelle pas. Minnesota se dit, mais c'est quoi ce bordel? On joue quasiment à 9 parce qu'on est une équipe B. On fait une belle action. On fait un contre, le meilleur joueur est une Finlay et se fait faucher, puis on ne reçoit pas un penalty, c'est inacceptable. Donc, et encore une fois, je comprends totalement ce que l'Impact ressent, ce que les fans ressentent. Moi, je comprends. Moi, depuis quelques années, depuis que je couvre l'Impact de façon semi-professionnelle, disons, je suis beaucoup plus détaché de l'émotion du foot, malheureusement. Même pour l'Algérie, j'essaie d'être le moins émotionnel possible. Donc j'ai du mal à tout le temps m'enrager de façon systématique, ça me manque, je pense que je vais devoir revenir à ça, à cette rage-là, mais j'essaie d'être un peu de recul pour dire ok, je vais voir la perspective des deux côtés, peut-être ça fait partie de mon emploi aussi, là je fais un travail où je suis obligé d'être un peu neutre, donc je me dis ok, comment est-ce que je peux analyser ça, peut me dire ok, comment ça affecte la personne, quel est l'impact de ce jeu, est-ce que ça fit la règle, etc. Et malgré tous les points positifs autour de cette décision, ça reste une décision très controversée, pour moi ça c'est clair. Ça c'est clair. Et puis moi j'avais des débats là sur le hors-jeu il y a bien longtemps. Tu sais ce qui m'énervait sur le hors-jeu avant la VAR? Il y a 15 ans. Je comprenais pas comment des arbitres pouvaient appeler un hors-jeu de le crampon dépassé de 3 cm.
La règle est stupide.
Mais il ratait des hors-jeux de 3 mètres. Je ne comprenais pas. La même ligue, c'était en Angleterre, la même ligue, la même semaine. Et ça je comprenais pas. Je dis mais comment?
Règle est difficile.
Exactement, déjà, elle est dure.
C'est que la règle, elle est difficile. Mais comment la régler, c'est difficile aussi.
La technologie va la régler éventuellement. Tu feras à un moment, on va trouver une façon de mettre...
Dans les meilleures ligues au monde, oui, comme au baseball.
Exactement.
Comme l'évidence du baseball, je sais que tu détestes ce sport, mais c'est pas grave. je veux dire, au baseball, on a tout le temps accepté le fait que la zone des prises était différente, des arbitres, et selon le compte, selon les lanceurs, on le dit...
Inacceptable. C'est un concept.
Un gars comme Greg Maddux,
il a fait sa carrière sur ça.
Et là, tranquillement, même si c'est évident, même si la technologie existe, même si c'est une seule et unique ligue, donc plus facile à contrôler, ils n'ont pas encore mis la technologie pour mettre la zone des prises de façon claire et évidente. Voici, ça c'est une prise. Comment ça va être compliqué pour les hors-jeux au soccer.
Regarde. C'est vrai, ça va être compliqué. Il faudra que la règle change un peu éventuellement pour aider les arbitres humains et éventuellement donner un cadre beaucoup plus précis pour le robot et l'intelligence artificielle dans le futur. Dès que l'intelligence artificielle va devenir, ça va arriver là. AI est partout dans nos vies. Okay, dans pas longtemps, là, dans moins de 20 ans, on va être entouré de intelligence artificielle de façon prédominante.
Netflix est censé, là. T'as trop de temps la nuit pour écouter Netflix.
Non, j'ai pas regardé autant. J'ai pas regardé Black Mirror. Tu sais, j'avais acheté un Google Speaker, là, il y a un an. Je l'ai débranché après 6 mois. il m'entend tout le temps. Ben, même les téléphones, ils n'arrivent pas à nous écouter, ça m'emmerde. Hein, mais, non, mais pour dire, du moment qu'ils sont capables de déterminer la ligne dynamique par rapport au ballon, par rapport à un défenseur, tu mets des sensors sur tout le monde, sur le terrain va te bomber de sensors. Puis ils vont trouver une façon d'y arriver. Ça va prendre du temps.
Ils vont y arriver. Ils le font déjà pour leurs propres besoins.
Exactement. Et ils vont y arriver. Mais bon. C'est controversé comme décision, la décision de l'arbitre irlandais. Mais such is life. Est-ce que l'impact est victime d'un complot?
Non.
Je ne sais pas.
Ben non.
Je ne pense pas. Je ne pense pas.
On a vraiment beaucoup de questions, Sofiane. C'est étonnant, là. Donc, je vais essayer d'en passer le plus. On va essayer d'en passer le plus possible. Grumpy Old Man a posé une tonne de questions. Je vais prendre, disons, celle de Piatti. Selon vous, est-ce réellement une saga ou un rumbling annuel des transferts?
J'ajoute la question de François Boisclair et de Boisfranc. Le départ de Piatti, c'est vrai ou c'est la même chose que dans les années passées?
Et c'est totalement différent, là.
Non. Moi, cette fois, j'y crois.
Ouais.
J'y crois parce que le club dit rien.
Ouais.
Et c'est pas le club qui dit rien quand Olympia vendait la photo de vendant des billets de des billets de saison avec la photo de Silva. Là, le club dit vraiment rien. Donc, je pense que j'ai l'impression qu'il est pas là au mois d'août. Là, c'est l'impression que ça me donne.
Ah ouais, le mois d'août, ouais. Change d'idée à chaque jour. Moi, c'est fou là. Moi, je pouvais pas concevoir que Piatti abandonne son contrat pendant la saison. Mais encore là, on connaît pas tout. Tu sais, Piatti, est-ce qu'il a déjà été payé presque en totalité? Est-ce que c'était des bonus à la signature? Donc, est-ce qu'ils vont en perdre tant que ça?
Est-ce que ça arrange l'impact aussi que Piatti quitte maintenant?
Exact. L'autre point, est-ce que ça arrange l'impact? Mais est-ce que ça arrange l'impact en espérant de tout cœur que les plans B, C, D sont déjà pas trop loin sur les bureaux? Mais si je pensais juste à Impact de Montréal, franchement, le meilleur recrutement, c'est un cliché, mais c'est tellement vrai dans ce cas-ci. Le meilleur recrutement que l'Impact peut faire dans ce mercato aussi, c'est d'avoir Nacho Piatti jusqu'à la fin de la saison. C'est la voie de salut, là. Avoir Piatti pour finir la saison et aller en playoff, parce que je crois de plus en plus que cette équipe-là va faire les playoffs.
Oui, j'ai un point à faire sur les séries, là, mais on en parle après.
Avoir Piatti dans cette équipe-là, c'est parfait, là. Il va amener, parce que c'est compliqué en cours de saison. Il reste quoi? Une douzaine de matchs, peut-être?
Et Piatti, il va peut-être en jouer cinq, peut-être, avant les séries, peut-être. Si sa blessure n'est pas si grave que ça, parce que moi, personnellement, là, je vois pas comment il va jouer des matchs.
Ouais. Puis ça, c'est un autre point. Ben, je vais y aller tout de suite avec un autre point-là. Moi, je suis très, très étonné de voir l'intérêt d'un San Lorenzo et de Piedente pour un vétéran qui coûte cher, puis qui a une historique de blessure là, très court terme, qui est inquiétant. Ça, je trouve ça bizarre.
C'est vrai, je suis étonné aussi. Mais pourquoi les présidents parlent publiquement comme ça? Je ne sais pas.
San Lorenzo a une très mauvaise saison. Là. Ils ont fini dans les derniers.
Oui, mais il en parle publiquement, que c'est déjà fait avec Independiente, je ne sais pas quoi. Je dis, honnêtement, est-ce qu'ils font du business? Est-ce qu'ils essaient de mousser l'argent de Piatti pour pouvoir le revendre? Je ne sais pas. Est-ce que Piatti sera revendu ou il va juste être libéré? J'y comprends pas. Mais regarde, il y a eu des cas plus graves, là. Comment il s'appelle, le gars, là? Le gars de Vancouver qui a marqué un bicyclette il y a 4-5 ans qui part au Mexique.
Cavillo, c'est ça?
Oui, c'est ça. Puis il est parti de nulle part. Puis c'était quasiment le MVP de Vancouver, puis un des top joueurs de la ligue. Puis il est parti
bouffe. C'était un des favoris de la foule.
Oh, ouais. Et puis il est parti au Mexique dans le même club que je pense que Ronaldinho. Donc, je m'en rappelle plus lequel, là. Je joue le nom du club. Mais il est parti juste comme ça. Donc, il faut faire attention, ça arrive à Camillo, ça va arriver à d'autres. Et Piatti, oui, il serait vraiment nul qu'il quitte comme ça, qu'il n'ait pas un vrai au revoir, etc. Mais en même temps, l'Impact, là, il est obligé de venir ici sans qu'il joue le match retour de la finale de la Copa Libertadores. Donc, tu sais, à un moment, le revers de la médaille. Hein.
Oui, tout à fait. Puis on était tellement fiers de dire que Piatti est arrivé gratis. On ne sait pas si c'est vrai, mais on l'a dit. On ne peut pas demander de l'argent, là. Il faut avoir une certaine cohérence là.
Et surtout que l'Impact sait jouer sans Piatti, donc ils vont se débrouiller sans lui. Moi je trouve que c'est un joueur important, pour moi c'est une légende, mais je vois les rumeurs qui ressortent.
C'est le club... joueur le plus important de l'histoire du club dans la MLS.
Ben oui.
Et tous les mots sont importants là-dedans. Là.
Ouais, parce que sinon Nick et Barker ils viendraient te parler là, ok? Et Pizzolito et Gervais et le Duc et Sutton.
Tiens, une question d'Émile Archambault. Il nous a posé plusieurs, mais c'est une qui m'intéresse un peu plus que les autres. Il reprend un peu la question de Joey Saputo, je crois que c'était l'année passée. Est-ce qu'on prend un joueur à 6 millions ou 3 à 2 millions?
Ça inclut Novilo ou pas?
Moi, ce qui m'inquiète, là, parce que pour remplacer tout ça, c'est beaucoup plus facile de se tromper avec des joueurs à 2 millions qu'avec un joueur à 6.
Oui. Ça dépend de quel joueur, là, mais oui.
Ben, Montréal a prouvé qu'il peut se tromper beaucoup plus souvent avec des TAM players qu'avec un DP.
Mais en même temps, est-ce que dans le 3 fois 2 millions, ça inclut aussi un ou deux TAM players? Parce que l'Impact a quasiment 3 fois 2 millions.
Oh ouais,
je prends Camacho, Tider et... qui d'autre là? Oruti. Voilà, t'as 3 fois 2 millions. Quasiment.
Donc, voilà, tu viens de prouver mon point.
Et voilà. c'est beaucoup plus gérable. Beaucoup plus gérable. Mais en même temps qu'un DP, tu peux te planter totalement. C'est un bon point.
Vraiment, vas-y.
Mais il faut juste pas obséder avec le tag du joueur désigné. Il faut juste penser, est-ce qu'il est bon? Il coûte combien? Est-ce qu'ils ont la place pour le faire, jouer? Et puis, that's it. Qu'il est DP ou pas DP, ça veut dire qu'il est payé très cher. That's it. Et puis, ça prouve que, juste avec les statuts de Tider et Camacho, Eurotis, ça prouve que être DP ne veut rien dire, parce que Tider, il est DP. Oui, Tider, il est DP.
Toujours.
Oui, excuse-moi. Camacho et Eurotis sont clairement payés comme des joueurs désignés, mais ils le sont pas. Ça change la perception un peu sur leur évaluation, mais ça change pas sur le terrain ce qu'ils valent ou ce qu'ils valaient. Donc faut faire attention, faut pas confondre l'outil financier avec le sportif. Ça se mélange, mais il faut pas trop mélanger.
T'avais pas un truc avant que j'aille à la question d'Antoine Sylvain, t'avais pas un truc sur les playoffs que tu voulais revenir?
C'était juste un truc que j'avais dit au début de la saison, juste pour que les gens s'en rappellent. Moi, quand une ligue change le format de comment on programme un champion, qui dans ce cas-là les séries MLS. Dans ce cas-là, on élimine les matchs aller-retour, puis on fait juste des matchs couperés. Du moment que tu arrives à faire ce choix-là, pour moi, ça change totalement la valeur de la saison. Déjà que la saison avait une valeur assez minime par rapport aux séries. Les Red Bulls, ils jouent très bien, mais jusqu'à qu'ils gagnent une coupe MLS, je pense qu'on s'en fout pas mal.
Mais tu viens de rejoindre justement, je suis en train de regarder une question de Fred, de Jean-François, il parle de ça exactement. Vas-y, continue.
Donc, et c'est ça mon point. C'est pour dire, c'est que l'Impact, là, ils peuvent bien jouer, ils peuvent très mal jouer, mais comment ils jouent, le nouveau format des séries est parfait pour eux. C'est des matchs couperés, ça rentre dedans, l'émotion, la victime, le complot, c'est parfait pour eux. C'est des matchs one-on-one, mano-à-mano, je pense qu'ils ont des chances d'aller en série si ils vont faire les séries. Et c'est pourquoi, c'est que qu'est-ce qu'il arrive cette saison? LAFC, là, ils sont gentils, là, mais ils tombent sur le Galaxy en première ronde, parce que c'est comme ça que le tableau se fait. Ils se font éliminer. Eh ben, la saison, on s'en fout. Le seul barème qui compte, c'est la coupe MLS.
Ce qui rend la MLS unique.
Exactement, unique, et demande à Kansas City avant qu'ils gagnent leur coupe MLS. C'est tout le temps, ils vont y arriver, non, ils n'ont pas gagné. Demande aux Red Bulls. Ils sont contents de gagner des US Open Cup et faire les séries, mais à un moment, ils voudraient aller loin.
Ils voudraient gagner la coupe. On aime ça, une fois que la saison est là, c'est oui,
et surtout,
elle est là pour un point, mais que le tournoi prend toute l'importance. Ben
oui. Et les séries sont tellement courtes par rapport à la saison. Tu sais, oui, je suis d'accord, la NHL, c'est 82 matchs et tu joues un minimum de 4 matchs en première ronde. Mais si tu vas loin, tu joues 20 matchs. Alors qu'en MLS, tu joues 2 matchs et t'es éliminé, c'est fini. C'est tellement court. Tu sais, le delta entre le nombre de matchs joués en saison et en série, c'est tellement un grand gap.
Perso, j'aime pas. J'aime pas le nouveau format.
Je comprends pas. Ça fait couperet. C'est pourquoi ça nivelle un peu. Ça nivelle un peu au début. Dès les premiers matchs, c'est l'émotion et qui rentre hot et qui est vraiment calme. Pas nécessairement les intentions de jeu puis le style de jeu. Peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que ceux qui arrivent en fuego, qui sont en mode victime, qui sont en mode non, on va vous rentrer dedans parce que on a des gars facteur X. Ça, c'est des équipes dangereuses. Peut-être plus tard, peut-être en les prochains matchs, t'attends d'adapter, tu sais ce que l'autre a fait avant de te rencontrer, donc t'as une idée de ce qui peut arriver. Mais au début, c'est un free-for-all. C'est comme la CAN 2019, là. Et j'en parlais avec Olivier Brett, et j'ai tweeté dessus sans arrêt, j'ai dit, attends, c'est une CAN, c'est la première édition où on joue à 24, on joue l'été, puis il y aura la VAR à partir des huitièmes de finale. Ben, c'est une nouvelle canne, ça. Ben, y a pas de favoris. Impossible qu'il y ait des favoris aussi clairs. L'Égypte et Maroc sont déjà éliminés. Et j'avais pas prédit ça, mais j'avais prédit qu'il y aura pas de favoris. Parce que c'est tellement un nouveau format. C'est des équipes qui sont pas là régulièrement, sont là en huitième de finale. Ça change la donne, comme l'Euro, le premier Euro en France. Ça change la donne. Après une ou deux éditions, tout le monde s'habitue et on revient à la normalité, à la nouvelle normalité. Et c'est pourquoi je dis cette saison, même si il n'y a pas une grande différence parce que le format des séries MLS reste, mais le format est tellement modifié à mon avis, ça a un impact énorme sur encore plus sur ce que vaut une saison et ce que vaut les séries à la fin d'une saison. Je trouve que c'est une grosse différence, puis il faut faire attention. Et c'est pourquoi j'essaie de ne pas trop stresser ce qui arrive maintenant, parce que en série, on remet le compteur à zéro. C'est mon humble avis.
Donc, on revient à Antoine, qui nous demandait, parlant un peu de la synergie, encore la nouvelle synergie, on dirait qu'on l'a refait aux deux ans, avec Bologne. Est-ce qu'on croit à ce système avec le grand frère Bologne qui achète, qui prête, qui reprend après développement, revend et fait des profits? Lui, Antoine, il voit un frein aux finances de l'Impact de Montréal.
Non. Toi? Je vois Okonkwo, Taider, Jim Miley, des bons coups et d'autres mauvais coups, Boldor, Paponi, Pisano moins, là. J'étais trop dur avec lui, mais il était pas top. Il y a des bons coups et des mauvais coups.
Oui, et jusqu'à un certain point, Lyon, c'est un peu ça, là. T'sais, est-ce que Brouillard, c'est vraiment négatif?
Non, c'est excellent.
S'il part dans deux ans, est-ce que c'est vraiment négatif?
Mais non.
Non, c'est tant mieux pour lui. Qu'est-ce qui va arriver? Mais Lyon va nous en prêter un autre. Moi, je trouve que c'est que du plus. Profiter de l'expertise de Bologne. En plus, si on est dans la même famille, c'est un... Le seul problème que je vois, là, c'est que tout ça, la structure, elle arrive tard, là. Et on en paye un peu le prix.
T'sais. Oui. Mais.
Sabatini.
Tu peux rattraper court rapidement, quand même. Parce que si t'as des bons assets plus, des deux côtés, ça peut être Brownie. C'est intéressant comme capital.
Oui. Bon, oui.
Il pourrait intéresser Bologne ou pas, mais l'impact, c'est sûr qu'ils vont faire faire leur argent. S'ils vendent bien, s'ils le moussent bien pendant deux ans. Brownie, ça va vouloir de. Ça va être une belle survie, une belle plus-value. Donc,
rapidement, il va falloir que tout le monde se parle. Parce que là, on dirait que c'est pas le cas tant que ça.
Il faut déjà trouver un directeur sportif, hein, déjà.
Oui, mais je veux dire, spoiler alert, là. Jusqu'à très récemment, Kevin Gilmore avait toujours pas parlé à Sabatini. Là. Puis, tu sais, je veux dire, il avait toujours pas parlé à Sabatini. Et pendant ce temps-là, il était avec Joey Saputo pour dire on va avoir un directeur sportif technique. Ils avaient l'air tout mêlé.
Est-ce que c'est son rôle?
Ils ont rapidement fait une conférence. C'est le rôle de qui alors?
Attends, est-ce que Kevin Gilmore, qui est là pour redresser les finances du club, c'est son rôle de dire qui choisir comme directeur sportif? Il va faire partie du processus de décision.
Attends,
mais c'est pas le seul.
Tu as donné une fonction. Attends, Sofiane, tu as décidé de donner cette fonction-là. Il est président.
Ouais.
Président, ça veut dire quoi? Il est en charge de l'équipe. Tout ce qui comporte l'équipe, il est en charge. Dans l'équipe, il y a du recrutement. OK? Mm. Rémi Garde ne fait plus le recrutement. Cette saison-là, contrairement à l'année passée, tout passait par son WhatsApp. Là, c'est plus son WhatsApp à lui, là.
Ben,
c'est lui qui fait le recrutement.
Il fait des forwards sur son WhatsApp.
Confirme.
À Vassili. Puis dire... Vassili, est-ce que tu peux évaluer?
C'est plus l'inverse. C'est maintenant, Rémi Garde doit confirmer si ce qu'on vient de voir, là, ce qui a été proposé à l'équipe, là, c'est tous les agents qui passaient par Rémi Garde passent maintenant par quelqu'un d'autre. Il y a une restructuration et je dis pas que c'est pas bon, là, mais là, en plus, on rajoute un autre chapeau, là, Sabatini, et on sait pas exactement comment que ça se passe. Malheureusement, tout ce système-là est pas rodé et il reste 4 semaines au mercato. Dans une situation assez clé, c'est-à-dire au moment où on doit subir le départ de Nacho Piatti.
Oui, OK.
C'est compliqué.
Ouais,
là,
c'est complexe. Ouais.
Tu sais, je veux dire, t'es agent de joueur, tu sais même pas à qui tu dois parler.
Oui, mais ils vont parler à Nick, ils vont parler à Vassili, ils vont parler à Rémi Garde, ils vont se trouver un groupe WhatsApp. Okay, puis ils vont
Nick, que ça soit fait. Là. Je veux dire, ça semble tellement un no-brainer. Puis qu'ils cherchent juste le fameux meeting avec l'agence de com pour savoir comment l'annoncer.
À moins que ce soit Greg Sutton, qui parle français maintenant. Ouh. J'ai aucune information, j'ai dit n'importe quoi. Mais je sais pas pourquoi le.
Il faut que ça soit fait, alors.
Mais pourquoi le directeur sportif de l'Impact doit parler français? Ça, je comprends pas.
Ça, c'est.
Je comprends pas.
Sofiane, je vais te dire quelque chose.
Je comprends pas.
À chaque fois que Joey parle, je sais qu'il y a plusieurs phrases qu'il a dit qu'il a pas réfléchi avant.
C'était du réflexe.
Non, mais c'est vrai, il faut pas y donner trop d'importance. T'sais, on analyse tous les mots de Joey, mais Joey a pas pris le temps de les analyser lui-même avant de le dire. T'sais, on parle, t'sais, le fameux un joueur 6 millions, 3 joueurs à 2 millions,
ouais.
On en parle tout le temps, mais ça a été un réflexe. Il a, t'sais, c'est, au lieu de réfléchir, il l'a dit, puis il y avait un micro en face.
Ouais.
Quand il a décrit le rôle de Walter Sabatini, c'était 24 heures plus tard le communiqué et c'était pas exactement la même définition. Il faut faire attention, donc. Parler français, parler la langue, on ne sait pas ce que ça veut dire. Anyway, à Montréal, tout le monde parle toutes les langues. Et dans ce club-là, on l'a vu, là, quand il était fâché, quand Joey était fâché sur le terrain...
Il parlait pas français.
Il n'y avait pas de français, ni de Rémi, ni de Joey.
Est-ce que je peux donner des compliments à l'excellent look de Joey avec ses lunettes? Tu sais, les lunettes toutes fines là et rondes là, en amont, c'est son meilleur look. Je dis ça de façon non ironique. J'adore. Ça fait un mélange de gars sérieux, sévères et en même temps de. Oui.
Il se promène en Italie, là, tu sais, c'est la maison, c'est le pays du look, là. Il s'en va là, tu sais, aux 3 mois, il regarde les nouvelles tendances de mode, puis il revient ici.
Mais j'aime le look.
Un cowboy,
j'aime le look. Bon, parce qu'on finit sur ça, sur le look de Joey Saputo.
Ouais, pourquoi pas. Pourquoi tu as un autre truc, un autre trend là qui était caché en toi depuis toutes ces semaines, puis que tu as juste le goût d'un
nom. Je pense pas, j'ai parlé de Tider, j'ai parlé de la MLS, la playoff, j'ai parlé du fait français.
Et là, tu veux juste en aller pour voir l'Algérie?
Ouais.
Confiant? Hein?
Non, je suis pas confiant. Non. Tu vois l'Égypte et le Maroc tomber, tu ne sais jamais. Je suis très confiant. Ben, j'ai dit qu'ils vont en finale après le premier match parce que je trouve qu'ils jouent très bien. Maintenant, la Guinée, I don't know, bro. Je ne sais pas. C'est la défense.
Dernière question parce que c'est une question directement à toi, Sofiane, puis après, je te laisse à gérer. C'est Julien Tessier qui nous demande pourquoi. Il veut t'entendre. Il veut vraiment t'entendre. Expliquer pourquoi. Tider est encore capitaine alors que Piet est sur le terrain. C'est peut-être un complot, là. Hein? C'est peut-être un message du club.
Attends, je suis en train de fumer une cigarette, là.
Attends, imagine ça. Piet fait une entrevue à SoFoot.
Tout va bien.
Hein? Piet avertit l'Impact de Montréal qu'il va faire une entrevue avec SoFoot. L'Impact de Montréal dit à Piet, c'est pas une bonne idée. T'es à la Gold Cup, ça va te déranger, tout ça. Tu sais, laisse-nous le temps.
Est-ce que c'est une info, Nilton, que tu es en train de lâcher dans mes oreilles?
Laisse-nous le temps, là. Tu sais, finis ta Gold Cup, et après, on va finalement discuter contrat. Tu sais. Dis non, je t'avertis seulement que l'entrevue est faite. Pas que je vais la faire, elle est faite. Fait que voici ce que je vais à peu près dire. Ça vous donne un peu de temps, si jamais ça réagit mal. L'entrevue sort, tu sais.
C'est bien.
Je sais pas si elle a été ajustée.
Très, 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 très soft. Je m'attendais à du drame, je m'attendais. Voilà. Il y avait une anticipation dans les coulisses des WhatsApp et des Facebook messages. Mais à la fin, j'ai dit, c'est ça. Il n'y a pas de controverse, il n'y a rien.
Ça sort, tu sais. La dernière question est légitime, tu sais. C'est sûr, un intérêt d'un joueur nord-américain pour l'Europe. La réponse, elle est quand même assez classique.
Les Europes, c'est bien.
C'est toujours mieux, les Europes. On l'entend à chaque semaine, anyway. Et là, tout d'un coup, on n'est plus obligé d'attendre la Gold Cup. Des premières discussions de contrat sont entamées, blablabla. Et il revient en ville. Boum. Comme dit Julien, Saphir est capitaine, alors que Piet a toujours été capitaine en l'absence de Piet. Alors, Sofiane.
Regarde, le capitana, c'est un bon dos, hein, c'est des conneries tout ça. Ce qui est important, c'est le terrain. C'est le terrain qui est important. Le reste, c'est des conneries. Non, honnêtement, vous savez ce que je pense sur le brassard du capitaine. Hein, Piet était un leader.
C'est nord-américain, hein, parce que c'est le fameux C sur le chandail.
Oui, même ça, jamais acheté ça, parce que Piet était un leader avant le brassard, taille de Russie, donc.
Et à la mi-temps, celui qui va parler à l'arbitre, c'est Piet.
Oui.
Parce que t'en le voyais
oui,
calme.
Oui, parce que c'est son rôle naturel.
Oui.
Et Saphir, s'il y va, il va lâcher comme en arabe. On veut pas.
Non, mais on sait jamais, tu sais, on n'est pas dans le vestiaire, là. Finalement, Piet peut lui-même dire, tu sais, Saphir, non, t'as été capitaine, reste capitaine, donc continue comme ça, là.
Il se peut que ce soit aussi. Je pense pas qu'il y a un message passé à Piet, là, genre, il est déjà capitaine, ça marche bien, on change pas. Peut-être la superstition, peut-être il voit que c'est Ed Tider, donc vas-y, garde-le. Sans l'avrien au leadership, là. Comme leadership de Bernier était encore là, quand Arnaud était capitaine,
ça va pas.
Non, mais Tider est trop fort. C'est juste ça qu'il faut dire aussi. Il est juste... Et encore une fois, il fait sa coupe de cheveux, ça marche. Moi, ça, c'est mon analyse Optazaz.
Optazaz, non, coupe de cheveux. Juste maintenant attendre si on va annoncer un contrat à Piet.
C'était quoi ton sondage a fini à 300-400 000 US, c'est ça?
Oh, est-ce que je l'ai encore épinglé?
Oui, je pense que tu l'as épinglé. Laisse-moi aller tout de suite.
Ah oui, c'est ce que j'ai laissé. Ouais. Moi, je suis toujours, by the way, le taux de réponse, là, je suis vraiment étonné à chaque fois. T'sais, avoir 1000 réponses, c'est fou, là.
T'es un influenceur. Dans pas longtemps, tu as montré des fesses sur Instagram.
Nice! Au grand plaisir, au déplaisir de tous. Ouais, c'est ça. Mais puis... C'était la deuxième fois que je posais cette question-là sur le bracket du salaire qu'on pourrait octroyer à Samuel. Et le plus dur, c'est pas la question, là, c'est les brackets, c'est tough. Là, tu sais, il faut... Donc, bref.
Regarde, quand j'ai fait,
la première fois que j'ai posé la question, les brackets étaient beaucoup plus petits. Donc, c'était les quatre choix de réponse, c'était 300 000 et moins. De 300 à 350, de 350 à 400 et 400 et plus. Donc, à 33%, la réponse numéro 1, c'était entre 350 et 400. Ensuite, le 300 à 350, c'était 30%, donc à peu près 3% d'écart.
Ouais.
Il y a eu quand même plus de 26% à 400 000 et plus et un petit 11% à 300 000 et moins. Tout a voté quoi?
J'ai voté 400 et plus. Parce que c'est ça qu'il va demander.
C'est sûr. C'est sûr qu'il va demander. Ouais. Moi, je pense qu'il va demander au minimum un demi-million.
Ça, c'est juste le salaire. On parle pas de sponsor, marketing, tout ça. Là, qui sont en partie gérés par la Ligue et le club, je pense. Mais en plus de la règle, je pense que le club et la Ligue gèrent une partie du sponsoring ou les sponsors du club donnent l'argent aux joueurs. En tout cas, c'est compliqué. Il faut que je parle à un avocat sportif là, qui connaît la MLS.
Je l'avais lu, j'ai déjà oublié, mais oui, je pense que t'as raison.
Mais Piet, là, il va faire presque autant en termes de sponsoring et de branding club, Ligue et lui-même que ce que ça a l'air. Déjà, je trouve, là, parce qu'il est très marketing, très marketable. Donc, c'est ça. Il va demander minimum 400-500 000 US, sans aucun doute.
C'est pas honteux de demander ça.
Non. Milieu défensif jeune, il faut que tu payes cher ces jeunes années avant qu'il aille, il veut aller en Europe. Donc, lui, il veut en profiter. Ou peut-être il se dit, l'Europe, c'est peut-être pas possible de me retrouver en D2 allemande. Peut-être c'est bien. Peut-être D2 allemande, Ligue 1, bas de tableau, il va faire un certain montant d'argent intéressant. Mais d'ici là, il est à Montréal, il est content, il est chez lui. Et puis, il peut voir sa famille en Repentigny, tout va bien. Puis il va payer en dollars US, donc il est gagnant. Mais sa plus-value, elle est là. Je répète ma métaphore sur Piet. Piet, c'est comme un jean neuf que tu trouves au village des valeurs et que tu as payé pas cher. Et maintenant, pour le maintenir, ce jean-là, que tu as acheté un jean neuf au village des valeurs, il faut que tu payes pour le maintenir. Et là, maintenant, c'est le moment de payer.
Il faut le laver.
Tu le mets pas dans ta laveuse, tu l'envoies au Serge Daou. Hein? Du coin, comme ça, il te fait un bon repassage.
Je pense que ça annonce la fin du podcast.
Je suis fatigué. Bon.
Sofiane, un gros merci.
Un gros merci à toi, Nilton.
C'est le début d'une séquence, là.
Inch'Allah. Le reste, c'est des conneries.
Voilà.
Merci tout le monde pour ce 15e épisode. Merci à la Forge Humaine de nous sponsoriser. Un grand merci. Trois-Rivières, allez à leur salon de dégustation à Trois-Rivières. Twitter, Facebook, Instagram, La Forge du Malte, suivez-les. Un grand merci Galafrenière. Merci à tout le monde de nous écouter, de nous supporter sur patreon.com/Football Club. iTunes, Google Podcast, Pocket Cast, ce que vous voulez, trouvez-nous Couscous Piré Piré sur votre application podcast balado diffusion préférée. Sinon, Facebook Cannes Football Club, Instagram Cannes Football Club, Twitter Cannes Football Club. Moi c'est Sofiane, lui c'est Nilton et nous sommes Couscous Piré Piré. Ciao tout le monde.
Ciao tout le monde, bonne semaine.
Ciao.
Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.